Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
À défaut d'avoir été invité sur le podcast de Max Verstappen, ce qui risque fort peu d'arriver puisqu'il me semble qu'il faut pratiquer la Formule 1 pour ça, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode du Qtorcast. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un tout nouveau sujet qui est celui de la carrière et de l'entrepreneuriat et tout ce qui s'en rapproche. Pourquoi ce sujet? Eh bien, déjà, pour une raison très simple, c'est que je suis au chômage. Donc, tout ce qui est carrière et entrepreneuriat, eh bien, en ce moment, ça n'existe pas pour moi. Enfin, ça existe un petit peu, mais disons que c'est un petit peu en stand-by. Le chômage, ça permet énormément de réfléchir à tout ça. Ça permet aussi beaucoup de chiller, de faire pas grand-chose de ses journées, de faire beaucoup de sport et de faire beaucoup ce qu'on aime et pas du tout ce qu'on déteste, c'est-à-dire travailler. Donc c'est très cool. Je recommande, à condition d'avoir un assez bon chômage pour payer votre loyer et faire des courses, et de pas faire comme moi, c'est-à-dire tout claquer en vacances pendant tout l'été, ce qui vous oblige à retrouver un travail très rapidement à la rentrée. Ce sujet, pourquoi? Parce que depuis tout petit, on nous a dit qu'il fallait bien travailler à l'école. Pourquoi? Pour avoir un bon travail. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, ce qui nous permettrait d'acheter potentiellement une maison, de faire des enfants et de les nourrir, d'avoir un chien. J'adore les Golden Retrievers, c'est vraiment un chien de pavillon, de banlieue chic. Mais j'adore ça. Et effectivement, j'ai un petit peu rêvé, moi, de cet objectif maison, mari, où je parlais des enfants, mais j'ai oublié de parler du mari, mais évidemment, maison, mari, Golden Retriever, ça va ensemble. Et si on peut avoir une petite piscine et une petite Mercedes garée devant la maison, tout va bien. Et pour ça, on nous a dit, quand on était petit, qu'il fallait travailler à l'école. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé à l'école, j'ai travaillé. Après, moi j'aimais bien l'école, hein. Je vous l'ai déjà dit dans un épisode, je trouvais ça cool, c'était pas une contrainte, et c'était pas uniquement pour avoir mon Golden Retriever à 40 piges. Non, j'aimais vraiment bien travailler à l'école. Donc l'école primaire, ça a été cool, même au collège, c'était cool, j'avais des bonnes notes. Au lycée, un petit peu moins. C'est pas que j'aimais pas l'école, mais c'est que je préférais les garçons et faire n'importe quoi. Entre midi et deux, fumer des joints devant le collège, tout ça, à ne pas reproduire, évidemment. Devant le lycée d'ailleurs, pas devant le collège. Mais j'ai quand même travaillé à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études. Voilà, alors, les études, revenons-y. J'ai fait des études en n'ayant pas la moindre idée de ce que je voulais faire dans la vie. Il y a des gens dans ce monde qui font des études en sachant très précisément ce qu'ils voudront faire à la fin de ces études. Beaucoup de gens partent faire médecine parce qu'ils veulent devenir médecin, et ce depuis qu'ils ont 8 ans. Il y en a qui partent faire l'école d'infirmière parce qu'ils veulent être infirmiers. Il y a ceux qui vont faire du droit car ils veulent devenir avocat. Il y a plein d'études, plein de vocations, des gens qui savent ce qu'ils veulent faire dès le départ. Moi, j'en avais pas la moindre idée qu'on m'aurait mis dans un IAE de management ou en fac de médecine ou dans une école pour devenir laborantin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ça m'aurait été, j'en avais aucune idée. Vraiment, j'avais Pas d'envie particulière. Je pensais un petit peu à faire avocat, mais c'était uniquement parce que je savais qu'on gagnait de la thune quand on était avocat. Et encore, c'est pas si vrai. Moi, j'étais persuadée que tous les avocats étaient blindés. Et je découvre avec le temps que c'est pas forcément le cas. Ça dépend. Avocat de quoi ? Skip avocat fiscaliste, si vous êtes étudiant, c'est cool quand même. Bon, bref, moi, ce que je voulais, c'était gagner de la thune. Donc, j'ai fait des études. J'ai fait une licence. Alors, je suis partie en droit, évidemment, vu que je voulais être avocate. Ça n'a pas marché, puisque je détestais tout ce qui est de l'ordre de la rédaction. Et j'étais très mauvaise en français. Donc, voilà, j'aimais pas du tout ça. Et j'ai arrêté. Et après, je me suis réorientée vers des études d'économie et de finance, sans savoir également ce que je voulais faire de ces études. Je me suis donc retrouvée à la fin de ces études en alternance. Voilà, il fallait faire une alternance. J'ai trouvé une alternance. Ça s'est bien passé. On m'a gardé en CDI. J'ai fini par rester 8 ans dans la même boîte. Voilà ma carrière. Tout ceci, tout ce qui s'est passé, ce sont des choses que je n'avais pas prévues et je n'ai jamais forcément voulu que ça arrive. Dans le sens où je ne me suis jamais dit « je veux travailler pour cette entreprise, je veux faire carrière dans cette entreprise, je veux avoir ce métier ». Pourtant, je l'ai fait, j'en suis contente, ça s'est bien passé, mais c'était pas prémédité, disons. J'ai fini par partir par une envie de changement. Voilà, l'histoire est longue et personnelle. Je vous passe ces détails-là puisque c'est pas ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est envahi de messages partout qui nous expliquent que pour être heureux dans la vie, on doit trouver sa voie, faire ce qui nous plaît, et avoir un métier épanouissant. Je pense pas avoir trouvé ma voie. Je sais pas vraiment si je fais ce qui me plaît. Enfin, en tout cas, si je faisais avant d'être au chômage, puisque maintenant que je suis au chômage, je fais clairement ce qui me plaît. C'est très, très cool. C'est très dommage qu'on puisse pas faire ça toute sa vie, hein, vraiment. Mais voilà, je sais pas si j'avais un métier épanouissant, mais j'étais pas malheureuse. Une chose est sûre, c'est que j'ai été plutôt heureuse. J'ai jamais eu de problème particulier. Enfin, voilà. J'ai eu des phases de haut, de bas, comme tout le monde, des petites phases de déprime, mais je peux pas dire que j'étais malheureuse dans ma vie et que ce soit, que ça puisse être lié à mon métier et à mon quotidien au travail. Cette fameuse phrase qui dit « si tu aimes ton travail, tu n'auras jamais l'impression de travailler », je pense que c'est n'importe quoi. J'ai aimé mon travail à plein de moments. J'ai toujours eu l'impression de travailler. Alors peut-être que si ton travail, j'en sais rien, même si t'es footballeur professionnel, pilote de F1, hein, je pense que t'as toujours l'impression de travailler. Si tu fais de la broderie, si tu fais, j'en sais rien. Enfin, ceux qui adorent vraiment leur travail, venez me dire si vous avez jamais, mais vraiment jamais l'impression de travailler, parce que ça m'intéresse beaucoup. On nous vend également beaucoup l'entrepreneuriat comme le saint graal de l'objectif de vie. Puisque c'est important de s'épanouir dans son travail, d'être heureux, d'être content de se lever tous les matins pour aller voir ses collègues. Mais le goal ultime, c'est d'être son propre boss, de ne pas se soumettre à l'autorité de qui que ce soit, de prendre soi-même ses propres décisions pour son entreprise, gagner son propre pain, voilà, mener sa barque soi-même. Je ne suis pas d'accord. D'abord, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas juste un eldorado de bonheur. Il faut quand même remettre les choses à plat. Je pense qu'on connaît tous dans notre entourage des gens qui sont entrepreneurs, qui font de l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, qui ont ouvert un commerce, qui ont monté une boîte dans tout et n'importe quoi, que ce soit des élagueurs, une boîte d'emballage, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. C'est une vraie galère. Demander à ces gens, il faut une détermination quand même assez vénère pour tenir et pour créer une boîte. C'est clairement pas fait pour tout le monde. Je pense que moi, j'y ai tellement réfléchi, en fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler. C'est parce que je voulais me poser la question si j'avais envie, cette envie de monter une boîte, cette détermination, et si c'était ce que je voulais faire de ma vie. Après réflexion, je pense pas. Je pense pas pour plusieurs raisons. Je pense que pour entreprendre, il faut un des deux critères suivants, ou les deux, c'est encore mieux, mais un des deux, à mon sens, suffit. Donc le premier et le plus important, c'est d'être déterminé, passionné, d'avoir envie. Si on monte une boîte dans quelque chose qui nous passionne, alors ça peut marcher comme ne pas marcher. Mes critères, c'est pas pour réussir, mais c'est déjà pour le faire. Si quelque chose nous passionne, si on a vraiment envie de le faire plus que tout au monde, on a des bonnes chances de réussir à se lancer dedans, d'avancer, et potentiellement de réussir. C'est quand même plus... Enfin, la probabilité est un petit peu plus élevée parce que ça va être des années sans se payer, des mois de galère. Genre, je ne connais pas grand-chose en entrepreneuriat, mais en tout cas, les gens de mon entourage qui l'ont pratiqué m'ont un peu expliqué. Et bah voilà, c'est l'enfer. C'est, en fait, le jour où ta boîte elle est rentable, c'est génial, mais ça ne se fait pas en quelques mois. D'ailleurs, ce serait une bonne idée, ça, de recevoir quelqu'un qui a entrepris, qui a réussi ou qui n'a pas réussi, et d'avoir un petit peu son point de vue. Mais je pense qu'il faut une détermination assez ouf. Et si on n'est pas très déterminé, c'est pas un projet qui nous passionne plus que ça, ou dans lequel on croit. Même si ça ne nous passionne pas, il faut y croire. Il faut vraiment y croire, se dire « Ok, ça peut marcher, ça, c'est un projet qui a de l'avenir. » Si on n'y croit pas, ça va être compliqué. L'autre critère pour moi qui peut également fonctionner et qui peut fonctionner, alors si on l'a avec l'autre, c'est parfait, là on est pépère pour entreprendre. Si on l'a tout seul, c'est déjà pas mal, mais il faut quand même une bonne idée, c'est d'avoir de la thune, en fait. Donc soit d'avoir gagné tellement d'argent qu'on en a beaucoup de côté pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et injecter dans la création d'une entreprise et être solvable auprès d'une banque ou d'un investisseur lambda, ou d'avoir un conjoint qui travaille et qui est prêt à voilà, tenir la barque pendant que nous, on veut réaliser nos rêves. Hein. C'est vraiment un cas que l'on constate souvent. Ou bien des parents qui ont de l'argent pour nous soutenir, ou un héritage, quoi que ce soit. On s'en fout d'où vient l'argent. L'important, c'est d'avoir de l'argent. On ne va pas se leurrer. C'est quand même hyper important. On a beau être déterminé dans la vie, avoir envie de faire plein de choses. C'est-à-dire que si tu n'as pas une thune et que tu as une bonne idée, en soi, bah bon courage, tu vas peut-être y arriver. Si tu arrives à vendre ton idée à des investisseurs, si tu arrives à vraiment te serrer la ceinture, vivre sur un petit chômage, voir un RSA, crécher chez je ne sais qui, ok, ça peut marcher et avoir de quoi te retourner derrière. Mais sans argent, le process devient tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, puisque pour en venir à notre goal de départ, même si on enlève le pavillon, le mari, les gosses et le golden retriever, c'est quand même important d'avoir un toit sur la tête et de quoi se payer à manger et de quoi chauffer son logement. C'est le minimum, et en fonction de là où on vit, et même si on vit dans un endroit où ça coûte pas cher, ça demande plus que 566 €, je crois, c'est-à-dire le montant mensuel du RSA. Il faut un petit peu plus que ça. Donc voilà, pour moi, ces deux critères sont assez importants. Si on n'a aucun des deux, si on n'a pas de détermination, qu'on ne croit pas forcément en son projet plus que ça, soit juste y croire, hein, c'est y croire vraiment où et qu'on n'a pas de thunes, l'entrepreneuriat, ça devient tout de suite plus compliqué. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Alors pour certaines personnes, effectivement, c'est le goal ultime et c'est l'eldorado du bonheur de la vie d'avoir monté sa boîte. Mais bon, il ne faut pas oublier que quand on a sa propre boîte, quand on est en vacances, c'est toujours notre propre boîte qui est en train de tourner. Même si on a des employés, bah, en fait, si la boîte elle coule, on coule avec. Enfin, dans le sens où, certes, on va déposer un bilan et on va pas couler, mais c'est notre projet qui coule. Moi, demain, si je me fais employer par quelqu'un, si la boîte coule, je vais être licenciée, je vais avoir un an de salaire maintenu pour me retourner. Alors certes, quand on travaille à l'usine c'est pas et qu'on a 50 piges, c'est pas forcément évident. Mais quand t'as la trentaine, que t'habites à Paris, que tu bosses en marketing, finance, juriste ou je ne sais lequel de ces métiers de parisien, clairement, si ta boîte, elle coule, en vrai, tu t'en fous un peu. C'est pas très grave, c'est pas ça qui va faire que ta vie, elle peut changer du tout au tout. Si ta boîte coule et que c'est ta propre boîte, ça peut vraiment avoir des conséquences énormes sur ta vie. Bref, je pense que je vous apprends pas grand-chose en disant ça. Mais je pense pas que le but dans la vie soit l'entrepreneuriat. Et je ne pense pas non plus qu'il faut avoir un métier qui fait sens ou qui nous anime pour être heureux. Je pense que ce qui compte, par-dessus tout, c'est d'avoir un métier pas trop stressant, qu'offre un bon équilibre vie pro, vie perso, et surtout d'avoir une vie riche à l'extérieur, en fait. On peut faire le métier, enfin, en tout cas, pour ma part, je peux faire un métier dont l'objectif final me désintéresse et totalement au quotidien. À partir du moment où j'ai le temps d'aller à la salle de sport quasiment tous les jours, où j'ai le temps d'aller faire de la moto, de voir mes amis, de faire des bonnes nuits, j'en sais rien. Enfin, tous ces trucs-là, moi, c'est ça qui me rend heureuse. Et évidemment, le salaire à la fin du mois qui me permet en fait, de pratiquer, d'avoir tous ces loisirs, d'avoir un appartement qui me plaît, de me payer les vacances dont j'ai envie, de m'acheter quelques fringues si je veux, d'aller bouffer au resto et tout ça. mais je crois pas que le métier en lui-même doive être ultra épanouissant. J'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que quand j'arrêtais de travailler, je me questionnais beaucoup là-dessus. Je me disais, mais attends, en fait, où je vais dans la vie, qu'est-ce que je fais tous les jours et pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je suis là. Je pensais qu'il fallait absolument répondre à cette question. La réponse, c'est qu'on est, on n'est rien ni personne, en fait. On est des milliards sur Terre, on est tout petit dans l'univers, on va vivre une moyenne de 80 ans, on va mourir et d'ici une génération, tout le monde nous aura oubliés. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir trop se projeter dans des trucs de « il faut que ma présence sur Terre ait une raison incroyable ». Enfin, je veux dire, la probabilité qu'on se souvienne de moi dans des années comme on se souvient de Cléopâtre ou de Victor Hugo, elle est absolument infime. Peut-être qu'on se souviendra de moi dans 100 ans pour des bonnes raisons et dans 200 pour des très mauvaises. Donc, tant qu'à faire, autant qu'on ne se souvienne pas de moi et de ce que j'ai fait sur cette terre. Je veux dire, ma vie, nos vies sont assez courtes pour se poser ce genre de questions. Alors, je pense que c'est normal de vouloir donner du sens, évidemment, mais je pense qu'il faut avant tout être heureux. Et plus on réfléchit, plus on essaye de se projeter, plus on essaye d'en vouloir toujours plus, plus on se rend malheureux. Alors ça, voilà, c'est la théorie. Après, dans la pratique, je sais que c'est difficile. Moi, j'essaye de trouver retrouver un taf qui va me permettre d'avoir tout ça et puis qui va quand même faire un peu sens. Parce que je me dis, bah, tant qu'à faire, autant que ça ait du sens. Mais j'essaye de plus en plus de me détacher ça parce que je suis sûre qu'au fond, ça n'a pas une importance majeure. Alors, ça l'a peut-être pour quelques personnes pour qui le travail est vraiment au centre de la vie. Mais je pense que pour la majorité, ce n'est pas le cas. De toute façon, il faut voir tous les métiers qui existent et qui ne sont pas des métiers de passion, entre guillemets, ou des métiers de vocation. C'est quand même une grande majorité. Les gens qui pratiquent ces métiers ne sont pas forcément et ne sont même pas, sont pas malheureux. Donc voilà, moi je cherche vraiment cet équilibre dans la vie. Je pense qu'à partir du moment où on a une vie extérieure au travail suffisamment riche, on n'a pas besoin d'avoir un travail si passionnant que ça. Même si on y passe un temps assez fou. Mais je veux dire, je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà fait ou déjà été sur un poste pas très intéressant, mais avec des collègues géniaux avec qui on passait, avec qui on rigolait beaucoup, avec qui on passait des très bonnes journées. Et finalement, parfois, c'est plus épanouissant qu'un travail hyper intéressant où on est plongé dans des sujets qui ont un vrai impact sur la société, etc. Mais avec des collègues horribles. Honnêtement, je suis pas sûre que ce genre de situation soit plus confortable. Donc voilà, c'est un peu ma réflexion du moment sur la carrière et sur le travail, l'entrepreneuriat plus globalement. Beaucoup de gens me demandent pourquoi j'essaie pas juste de développer mes réseaux et d'en vivre tout simplement. En fait, les réseaux, le podcast, tout ça, ça reste, même si pour être totalement transparente, je gagne un petit peu d'argent avec via des partenariats, ça reste quand même un loisir. C'est-à-dire que Instagram, je poste quand j'en ai envie. J'ai pas de contraintes par rapport à ça. Et si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Le podcast, c'est pareil. J'ai fait une pause de plusieurs mois. Bah voilà, c'est moi qui décide et je le fais. Et sur plein d'autres choses, c'est comme ça. Et le jour où un hobby devient votre travail, et bah, ça devient automatiquement un peu moins fun parce qu'on y ajoute des obligations, une implication qui n'est pas la même et forcément le plaisir qu'on retirait à juste de le faire spontanément, on ne l'a plus beaucoup. Donc voilà, donc est-ce qu'on doit faire de sa passion son métier? C'est une question que je me pose. Il y a plein de gens qui ont cet objectif dans la vie de se dire « Ok, moi j'adore faire du dessin, et bien, je veux que le dessin ce soit mon métier, j'adore faire de la musique, je veux que la musique ce soit mon métier » et c'est totalement légitime, je le comprends. Bon, moi, vu mes passion, c'est-à-dire la muscu et la moto, j'ai pas un assez bon niveau pour vouloir en faire mon métier, donc bien heureusement, je ne prends pas de risque de ce côté-là. Mais voilà, je pense que c'est pas une obligation dans la vie d'être épanoui dans son travail, et c'est pas grave de pas l'être si on est épanoui par plein d'autres choses par ailleurs, et il faut absolument arrêter de mettre la pression sur les gens là-dessus. Je trouve que voilà, les réseaux nous envahissent de messages dans ce sens, alors que franchement, on s'en fout. Va travailler pour une boîte, lève-toi le matin, fais ton taf, prends ta pause-déj, profite, va au sport, sors pas trop tard le soir, va boire des coups, va voir tes potes, pars en vacances, pars en week-end, profite de la thune que cet employeur te donne. Et voilà, après, on peut enlever... on peut parler de toutes ces questions d'éthique par rapport à l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que je comprends totalement. On n'a pas forcément tous envie de travailler dans des boîtes comme Total ou Monsanto, pour n'en citer que deux. Voilà, je le comprends. Au-delà de ça, si on veut avoir un métier épanouissant, allons-y. Et je pense que si on n'en a rien à faire d'être épanoui dans son taf et qu'on veut juste profiter de la vie, mais faisons. Et ne nous mettons pas de pression là-dessus. Voilà, je pense que c'est tout pour moi sur ce sujet. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui, que je me fais passer à moi-même aussi pour ma recherche d'emploi. N'hésitez pas à m'envoyer des offres d'emploi pour m'aider. Non, je plaisante, je postule de mon côté. Voilà, j'espère retrouver un travail qui m'offrira un bel équilibre vie pro-vie perso et qui me permettra de chiller presque tout autant qu'en période de chômage. En tout cas, n'hésitez pas, le chômage, c'est génial. Très très sympa, après avoir contribué pendant 8 ans, je suis bien contente de récupérer une partie de ma thune. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me mettre 4 étoiles, 5 étoiles, je sais plus, en tout cas le maximum, ça me fait plaisir de mettre un commentaire, si vous pouvez mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, ça me fait également très plaisir et ça m'aide pour le référencement. Vous pouvez me suivre sur La Vraie Meuf Cool et sur Cutorcast sur Instagram. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez écouté cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Ciao!
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.